Il y a des moments dans la vie où l'on se dit, si j'avais ce petit quelque chose, je serais prêt et je pourrais me détendre. Par exemple, si j'avais 10 millions de zloty, je serais prêt et je pourrais me détendre. Si j'avais 10 millions de zloty, je serais tranquille et je n'aurais plus à me préoccuper de l'argent.
Si je réussis cet examen, je serais fin prêt et je n'aurais plus besoin d'étudier.
Si j'avais un mari ou une femme, tout serait organisé et je n'aurais plus à me stresser.
Si j'obtenais cette promotion au travail, je pourrais me détendre et me relaxer.
Si ce problème de santé était résolu, je n'aurais plus à me soucier de mon corps.
Si je pouvais prendre ma retraite, j'aurais enfin le temps de profiter de la vie.
C'est une belle théorie. C'est amusant d'y penser. Mais est-elle vraiment vraie?
Lorsque nous obtenons ce que nous voulons, sommes-nous vraiment satisfaits? Sommes-nous vraiment détendus et relaxés? Ou bien en voulons-nous encore plus?
La grande question est de savoir si Dieu veut cela pour vous.
Veut-il que vous soyez dans une position de confort total, de sorte que vous n'ayez plus jamais à penser aux circonstances de votre vie?
C'est ce que j'aimerais que nous examinions ce matin.
Si vous avez une Bible, veuillez vous reporter à l'Épître aux Rois, 1 Rois 17.
J'aimerais commencer une courte série de sermons sur la vie d'Élie, le prophète de l'Ancien Testament. Sa vie n'est documentée que dans 5 chapitres de l'Ancien Testament, et pourtant, il est souvent mentionné dans le Nouveau Testament.
Lorsque Jésus a demandé à ses disciples « Que dit-on de moi ?», ils ont répondu que certains pensaient qu'il était Élie, le prophète. Dans les Évangiles, certains pensaient que Jean le Baptiste était Élie. Élie a fait une forte impression. Que pouvons-nous donc apprendre de lui, aujourd'hui, même s'il se trouvait dans une situation bien différente de la nôtre?
L'un des versets les plus utiles lorsque nous pensons à l'Ancien Testament se trouve dans Luc 24-27. C'est après la résurrection de Jésus qu'il marche sur la route d'Emmaüs avec 2 disciples. Avant que Jésus ne se révèle à eux, le verset dit « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qu'il concernait. »
Jésus a pris l'Ancien Testament et a montré à ses 2 disciples comment tout l'Ancien Testament, les écrits de Moïse et des prophètes, pointaient vers le Christ.
Jésus n'est peut-être pas mentionné à chaque page de l'Ancien Testament, mais ses écritures pointent vers lui.
Elles trouvent leur oui et leur amen en Jésus-Christ. Elles étaient l'ombre des choses à venir en Christ.
Et d'autres termes, ce matin, nous lirons un article sur Élie. Mais Jésus est le plus grand Élie, comme il est dit dans le chapitre 3 de l'Épître aux Hébreux.
J'aime lire sur Élie parce qu'il était incroyablement audacieux et puissant pour le Seigneur.
Mais j'aime aussi lire à son sujet parce qu'il était aussi très humain.
Ses hauts étaient élevés, disons, mais ses bas étaient très bas.
Jetons donc un coup d'œil à 1 Rois 17:1.
1 Rois 17:1. Élie le Tishbite de Tishbé en Galaad dit à Akab,
« L'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant. Il n'y aura ni rosée ni pluie dans les années à venir, si ce n'est sur mon ordre. »
Permettez-moi tout d'abord de vous présenter le contexte dans lequel s'inscrit l'épopée d'un roi.
Les livres de l'Ancien Testament d'un deux rois et d'un deux chroniques raconte l'histoire des rois d'Israël et de Juda.
Le premier roi est Saül, puis David et Salomon.
Après Salomon, le royaume se divise entre les 10 tribus d'Israël au nord et les 2 autres tribus, Juda et Benjamin, au sud.
Les rois du royaume du nord d'Israël étaient tous mauvais, mais les rois de Juda, dans le royaume du sud, étaient un mélange. Il y avait quelques bons rois, mais la plupart étaient des mauvais rois. Élie arrive pendant le mauvais règne du roi Akab dans le nord. Il a régné pendant 22 ans et a épousé Jézabel, que nous rencontrerons plus tard.
Nous ne savons pas grand-chose sur Élie.
Il est dit au verset 1 qu'il était originaire de Tishbé, en Galaad.
Mais nous ne savons rien de sa famille.
Mais nous savons qu'il était un prophète du Seigneur.
Son nom signifiait « Mon Dieu est le Seigneur ».
Il vient voir le méchant roi Akab et lui annonce qu'il y aura une sécheresse dans le pays. Il n'y aura ni pluie ni rosée au cours des prochaines années.
Pourquoi pas de pluie? Eh bien, la nation d'Israël, sous la direction du roi Achab, adorait d'autres idoles, en particulier l'idole Baal. Cette idole était censée avoir le pouvoir et l'autorité sur la pluie. S'il n'y avait pas de pluie, cela signifiait que Baal n'était pas avec eux. Dieu se servira donc d'Élie pour aller à l'encontre de leur idole et de leur faux dieu.
C'est comme si Dieu disait « Oh, vous pensez que c'est l'idole Baal qui vous donne la pluie ? Eh bien, laissez-moi vous montrer qui détient la véritable autorité. Permettez-moi de couper la pluie, non pas pour un jour ou un mois, mais pour quelques années. »
2. La parole du Seigneur fut adressée à Élie.
3. Pars d'ici, tourne-toi vers l'Orient et cache-toi dans le ravin de Kérit, à l'Orient du Jourdain. 4. Tu boiras au torrent, et j'ai ordonné au corbeau de t'y nourrir. Apparemment, le roi Akab n'a pas aimé ce qu'Élie avait à dire, et le Seigneur lui demande de partir et de se cacher dans un ravin. Un ravin est une vallée étroite entre deux versants escarpés. C'est un endroit idéal pour se cacher, mais ce n'est pas un endroit idéal pour vivre et rester. Pourtant, le Seigneur lui dit, « Va là et je prendrai soin de toi. »
Elle fit ce que l'Éternel lui avait dit. Il alla au ravin de Kérit, à l'Orient du Jourdain, et il y demeura.
Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait au torrent.
Élie écoute le Seigneur et va dans le ravin.
Et Dieu est fidèle. À l'aide d'oiseaux, Dieu apporte de la nourriture le matin, de la nourriture le soir et de l'eau à boire. Chaque jour, la nourriture arrivait.
Cela vous rappelle-t-il quelque chose?
Cela ne vous rappelle-t-il pas l'époque où Israël se trouvait dans le désert et où Dieu lui fournissait de la nourriture, la manne.
Dieu n'a pas donné à Israël une boîte géante d'aliments transformés qui durerait 3 ans avant d'expirer. Il leur a dit d'aller chercher une portion de nourriture pour ce jour-là, sauf le jour du sabbat. S'ils essayaient de prendre de la nourriture supplémentaire pour un autre jour, la manne se gâterait. Elle n'était destinée qu'à ce jour-là et elle était toujours suffisante pour ce jour-là.
Il s'agissait, évidemment, de la provision de Dieu pour les besoins physiques d'Israël. Mais je pense qu'il y avait aussi une leçon spirituelle à en tirer. Dieu pourvoirait aux besoins de son peuple. Nous voyons un schéma similaire ici dans le ravin. Dieu envoyait un corbeau 2 fois par jour et fournissait suffisamment de nourriture à Élie.
Nous retrouvons également ce modèle dans le Nouveau Testament.
Dans la prière du Seigneur, Jésus nous dit de prier « Donne-nous aujourd'hui notre pain. » Notre pain quotidien.
Cette prière est une prière quotidienne. Elle nous rappelle chaque jour que Dieu est notre pourvoyeur.
C'est un rappel quotidien que nous avons besoin de lui pour tous les aspects de la vie, physiquement, spirituellement, relationnellement.
Une fois, l'un de mes enfants m'a demandé si nous ne pouvions pas simplement prier et dire merci à Dieu pour toute la nourriture pour le reste de notre vie, pour ne pas avoir à prier avant chaque repas. J'ai dit que prier avant chaque repas n'est pas une tâche que nous devons faire, comme nettoyer sa chambre.
Prier avant un repas, c'est reconnaître que Dieu est notre pourvoyeur, c'est rendre grâce pour ce qu'il nous a donné aujourd'hui. Il nourrit les oiseaux du ciel. Alors combien plus prend-il soin de nous?
Il a pourvu aux besoins d'Élie dans le ravin et il le fait pour nous.
Il est notre soutien.
Il est notre aide.
Et, comme nous le verrons dans les versets suivants, il pourvoit souvent à nos besoins de manière inattendue.
7 ans plus tard, le torrent tarissait
car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays.
8 ans plus tard, la parole du Seigneur lui fut adressée.
9. Va tout de suite à Sarepta, dans la région de Sidon, et séjourne-y. J'y ai chargé une veuve de te fournir des vivres.
À cause de la sécheresse, l'eau se tarit.
Il est possible qu'Élie y ait vécu une année, mais il est temps de partir.
La parole du Seigneur est donc adressée à Élie, et lui dit d'aller à Sarepta, à Sidon.
Cette ville se trouve en dehors de la nation d'Israël. Et cette région était au cœur de l'adoration de l'idole Baal. Élie n'entre donc pas en territoire ami, disons. Il entre dans le ventre de la bête. Mais Dieu lui dit d'y aller, et précise qu'il y a là une veuve qui l'aidera.
10. Il se rendit à Sarepta, il arriva à la porte de la ville, et il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui demanda, « Veux-tu m'apporter un peu d'eau dans une cruche pour que je boive ?»
11. Comme elle allait la chercher, il appela, « Et apporte-moi, s'il te plaît, un morceau de pain. »
Élie va à la rencontre de la veuve qui ramassait des bâtons pour faire du feu plus tard. Comme vous l'avez probablement déjà deviné, les veuves n'étaient généralement pas riches à l'époque. Elles étaient généralement pauvres. Elles n'avaient pas grand-chose. Elles étaient généralement dans le besoin.
Mais Élie a entendu le monde du Seigneur et lui demande de l'eau.
Quand elle va la chercher, il dit « Oh, et je peux avoir du pain aussi ?» Cela me rappelle la fois où je travaillais avec l'un de mes bons amis. J'étais en pause pour le déjeuner et je savais que mon ami n'avait pas beaucoup d'argent à ce moment-là. Je lui ai dit, je vais prendre un kebab pour le déjeuner. Je peux t'en offrir un aussi? Mon ami m'a répondu, waouh, merci, j'apprécierai. Et alors que je partais, j'étais presque à la porte, il a crié, je vais prendre du poulet, sans sauce épicée, avec du riz à côté, et tu peux me ramener des frites avec ça aussi? Comme je l'ai dit, c'était mon bon ami. Je le connaissais. Nous avons donc ri tous les deux du fait qu'il y a une minute, il allait avoir faim, mais qu'une fois que j'ai dit que j'allais lui acheter quelque chose, il est devenu pointilleux et a voulu toutes ces modifications et ces choses supplémentaires.
C'est un peu la même chose avec Élie et la veuve.
Ils n'étaient pas amis. Ils ne se connaissaient pas. Quand il a demandé de l'eau, elle est allée lui en chercher. Mais pendant qu'elle allait la chercher, il a dit, « Yo, est-ce que je peux avoir du pain aussi ?»
12.
« Aussi vrai que le Seigneur, ton Dieu, est vivant, » a-t-elle répondu, « Je n'ai pas de pain, seulement une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile d'olive dans une cruche. Je ramasse quelques bâtons pour les emporter à la maison et faire un repas pour moi et mon fils, afin que nous le mangions et que nous mourions. » La veuve reconnaît le Seigneur, mais elle dit que c'est le Seigneur d'Élie, pas le sien. « Le Seigneur, ton Dieu, est vivant. » Puis elle décrit la situation. Elle est réaliste. Elle dit qu'elle n'a pas de pain. Elle n'a qu'un peu de farine et d'huile d'olive. Elle dit que c'est juste assez pour un dernier repas avec son fils avant qu'il ne meure. C'est ce qu'elle avait prévu de faire ce jour-là. Il n'y avait plus de nourriture. Elle n'avait plus d'espoir. Il ne lui restait plus qu'à mourir.
C'est triste, mais elle ne mentait pas.
Il y avait juste assez de matériel pour un dernier repas, et ce serait tout.
Rappelez-vous, Dieu a dit à Élie d'aller chez cette veuve parce qu'elle aurait de la nourriture. Mais il ne semble pas qu'elle ait beaucoup de nourriture. Mais malgré les circonstances, Élie a cru. Il a fait confiance à Dieu.
Très Élie lui dit, « N'aie pas peur, rentre chez toi et fais ce que tu as dit. Mais fais d'abord un petit pain pour moi avec ce que tu as, et apporte-le-moi, puis fais quelque chose pour toi et ton fils. »
14. Car voici ce que dit le Seigneur, le Dieu d'Israël, la jarre de farine ne s'épuisera pas, et la cruche d'huile ne se tarira pas, jusqu'au jour où le Seigneur enverra de la pluie sur le pays. Élie réconforte la veuve, et, comme nous l'avons lu la semaine dernière dans Matthieu 28, il lui dit de ne pas avoir peur, il lui dit de rentrer chez elle et de faire du pain pour lui, puis pour sa famille. Peu importe qu'elle n'ait qu'un peu de farine et un peu d'huile. Dieu lui a dit que ce peu ne s'épuiserait pas. L'huile ne s'épuisera pas jusqu'à ce que Dieu envoie à nouveau de la pluie.
5. Elle s'en alla et fit ce qu'Élie lui avait dit. Et il y eut chaque jour de la nourriture pour Élie, pour la femme et pour sa famille.
16. Car la jarre de farine ne s'épuisait pas et la cruche d'huile ne tarissait pas, selon la parole du Seigneur prononcée par Élie.
Dieu a été fidèle à sa parole,
et il a été fidèle à Élie et à la famille de la veuve. Chaque jour, il y avait juste assez de nourriture pour eux tous. Et, comme je l'ai dit plus haut à propos du pain quotidien, il s'agissait d'un acte de foi quotidien.
Nous ne lisons pas ici que Dieu a rempli la jarre de farine et qu'il a rempli la cruche d'huile. Elle n'était jamais pleine, mais nous lisons qu'elle n'était jamais vide. Chaque jour était une nouvelle aventure de foi quand il se réveillait, allait à la cuisine pour voir s'il y avait de l'huile et de la farine.
Et il y avait toujours juste assez de farine, juste assez d'huile, pour faire de la nourriture pour ce jour-là.
Et puis il revenait le lendemain, et il y avait juste assez de farine, juste assez d'huile, pour faire de la nourriture pour ce jour-là.
Ce miracle vous rappelle-t-il un autre miracle?
Il nous rappelle quand Jésus a nourri les 5000, ou quand il a nourri les 4000 personnes.
Lorsqu'il a nourri les 5000 personnes, il s'est contenté de 5 pains et de 2 poissons. Quand il a nourri les 4000, il l'a fait avec 7 pains et quelques petits poissons. Et à la fin, il restait beaucoup de choses.
Dans les deux cas, il semblait qu'il n'y aurait pas assez de nourriture. Il ne semblait pas y avoir assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Mais il y en a eu.
Cela me revient toujours à l'esprit lorsque nous organisons un repas apporté et partagé. Comme ce fut le cas dimanche dernier.
Au début de la semaine, on se demande s'il y aura assez de nourriture pour tout le monde. Puis le dimanche arrive et les gens apportent de la nourriture à partager. Mais la question reste la même. Est-ce suffisant? C'est pourquoi nous prions. Mais à chaque fois, il y a toujours eu assez.
Que pouvons-nous donc apprendre sur Dieu à partir de l'histoire d'Élie et de la veuve? Il est clair que Dieu pourvoit aux besoins.
C'est vrai.
Mais il y a quelque chose dans le comment de cette histoire. Comment il pourvoit aux besoins de ses enfants? Comment il pourvoit à vos besoins? Il y a quelque chose dans le pot presque vide.
Tout d'abord, nous voyons que Dieu peut utiliser des moyens et des personnes inattendues pour accomplir ses desseins dans nos vies.
Notre Dieu est le Créateur, ce qui signifie qu'il est créatif.
Il a utilisé un oiseau impur pour apporter de la nourriture à Élie tous les jours, et il a utilisé une veuve qui n'avait pas grand-chose pour subvenir aux besoins d'Élie et de sa famille.
Dieu peut utiliser des moyens inattendus et des personnes inattendues pour subvenir à ses besoins.
Je parie que nous pourrions faire le tour de la salle et raconter des histoires où Dieu nous a pourvus de manière inattendue. À plusieurs reprises dans ma vie, Dieu s'est servi d'un parfait inconnu pour me bénir financièrement. Je ne les connaissais pas du tout, mais le Saint-Esprit a travaillé dans leur cœur pour qu'ils soient une bénédiction pour moi.
Il y a eu d'autres moments où Dieu a utilisé des personnes inattendues pour être une bénédiction pour moi dans le ministère. Des personnes que je ne connaissais pas ont eu un mot d'encouragement pour moi qui m'a aidé à continuer. Je ne m'y attendais pas, mais cela m'a donné un grand coup de pouce.
Nous devons garder les yeux ouverts, car Dieu agit souvent d'une manière inattendue.
Mais cette histoire montre aussi clairement que Dieu veut que nous dépendions de lui dans la foi, tous les jours.
Il veut que vous sachiez d'où vient votre aide.
Je disais tout à l'heure qu'il est facile de penser, «
Oh, si j'avais 10 millions de zloty, tout irait bien. Si j'avais 10 millions de zloty, je n'aurais plus jamais à m'inquiéter de quoi que ce soit. Je pourrais me détendre et me relaxer. C'est une belle théorie. Mais Dieu s'intéresse-t-il vraiment à cela? Il semble plus intéressé par le fait que nous soyons dans une position où nous sommes tous les jours reconnaissants pour notre pain quotidien.
Je discutais avec un ami qui a été missionnaire et qui est maintenant pasteur.
Aujourd'hui, sa vie est plutôt stable en ce qui concerne les finances et le ministère, et il en est reconnaissant. Mais il m'a dit qu'il regrettait un peu les premiers temps de sa mission, lorsqu'il n'avait pas beaucoup d'argent, lorsque la jarre était presque vide, disons.
Il a dit qu'il y avait des mois où lui et sa femme ne savaient pas comment ils allaient payer leur loyer ou acheter de la nourriture, mais qu'à chaque fois, à la dernière minute, Dieu y pourvoyait.
On pourrait penser qu'il serait heureux d'en finir avec ces moments. On pourrait penser qu'il est heureux que les choses soient un peu plus stables financièrement pour lui et sa famille.
Et c'est le cas, dans une certaine mesure. La stabilité n'est pas une mauvaise chose.
Mais il repense à cette époque
et se rappelle combien il était excitant de voir Dieu intervenir à la dernière minute. Il se souvient qu'ils étaient constamment à genoux dans la prière. Ce qui leur manquait sur leur compte en banque, ils l'avaient dans la foi. Et ils regrettent de ne pas pouvoir compter sur Dieu pour tout.
La vérité est que nous dépendons toujours de Dieu pour tout.
C'est en lui que nous vivons, que nous nous déplaçons et que nous existons.
Mais il y a des moments où nous sommes plus conscients de notre besoin de lui et d'autres où nous le sommes moins.
En réalité, lorsque la jarre est pleine, nous sommes moins conscients de notre besoin de Dieu que lorsque la jarre est presque vide.
Lorsque le pot est presque vide, vous en êtes conscient tous les jours.
Peut-être êtes-vous en ce moment dans une situation de besoin.
Il s'agit peut-être d'un besoin physique.
Peut-être est-ce un besoin financier.
C'est peut-être un besoin relationnel ou un besoin différent.
Et en ce moment, vous voulez simplement sortir de cette situation.
Vous voulez que la situation soit résolue pour ne plus avoir à vous stresser ou à y penser.
Vous criez donc et demandez à Dieu d'arranger la situation.
C'est la plupart de nos prières, n'est-ce pas?
Dieu, arrange cette situation.
Sors-moi de cette situation ou de ce problème, quel qu'il soit.
Et ces prières sont bonnes.
Nous devrions nous adresser à Dieu pour ce genre de choses.
Mais nous devrions aussi nous rappeler que dans ces moments de grands besoins, nous faisons l'expérience de la douceur de la foi, de l'intimité profonde que procure le fait de s'en remettre à notre bon Père.
Lorsque je repense à ma vie, je me souviens des moments de foi et je les chéris.
Les moments où si Dieu ne s'était pas manifesté, j'aurais été grillé.
Ce sont les bons moments.
Dieu veut que vous dépendiez de lui dans la foi, tous les jours.
Je voudrais faire une dernière remarque à propos de cette histoire.
J'ai lu cette citation quelque part cette semaine.
Je ne me souviens plus qui l'a prononcée.
Mais ils ont dit, chaque épreuve, chaque test, vous prépare à ce qui va suivre.
Élie a fait preuve de foi et a annoncé la prophétie au roi Achab.
Il s'est retrouvé dans une situation où il a dû se cacher.
Mais Dieu lui fournit de la nourriture par l'intermédiaire d'oiseaux.
Puis l'eau a manqué et Dieu l'a envoyé chez la veuve.
Elle n'avait pas beaucoup de nourriture, mais Dieu l'a encore pourvue.
Ce qui nous amène au verset 17.
17. Quelque temps plus tard, le fils de la propriétaire de la maison tomba malade.
Elle dit à Élie, « Qu'as-tu contre moi, homme de Dieu?
Es-tu venu pour me rappeler mon péché et tuer mon fils?
Le fils de la veuve tombe malade et meurt.
Nous savons qu'elle est veuve et qu'elle a donc connu la mort de son mari à un moment donné.
Et maintenant, tragiquement, elle perd son fils.
Elle vient chercher des réponses auprès d'Élie.
Elle lui demande, « Que s'est-il passé ?
Est-ce quelque chose que j'ai fait ? Est-ce mon péché ?»
Mais Élie ne répond pas à ces questions.
9. Élie répondit, « Donne-moi ton fils. »
Il le prit des bras de la veuve, le porta dans la chambre haute où il logeait, et le coucha sur son lit.
20. Puis il cria au Seigneur,
« Seigneur mon Dieu, as-tu fait venir le malheur sur cette veuve chez qui je loge ?» en faisant mourir son fils.
21. Puis il s'étendit trois fois sur l'enfant et cria au Seigneur,
« Seigneur mon Dieu, que la vie de cet enfant lui revienne !»
Élie n'arrivait pas à croire ce qui se passait.
Cela n'avait aucun sens pour lui.
Pourquoi Dieu leur donnait-il de la nourriture pour qu'il reste en vie?
Et pourquoi ce garçon mourait-il?
Cela n'avait aucun sens pour lui.
Ses émotions sont ici brutes et réelles.
Il crie au Seigneur.
Il s'étend sur le garçon à trois reprises et prie Dieu de le ramener à la vie.
22. Le Seigneur entendit le cri d'Élie, et la vie revint à l'enfant qui vécut.
23. Élie prit l'enfant et le descendit de la chambre dans la maison.
Il le donna à sa mère et lui dit, « Regarde, ton fils est vivant. »
Dieu entend la prière d'Élie et l'exauce.
Dieu ramène le garçon à la vie.
Élie le prend, l'amène en bas à sa mère et lui dit, « Regarde, il est vivant. »
C'est la première fois dans l'Écriture que nous lisons que Dieu ramène quelqu'un à la vie.
La veuve réagit avec foi à la situation.
24. La femme dit à Élie, « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu
et que la parole du Seigneur qui sort de ta bouche est la vérité. »
Au verset 12,
Elle appelait le Seigneur le Dieu d'Élie.
Mais maintenant, elle croit en la parole de Dieu et en son serviteur.
Chaque épreuve, chaque test, vous prépare à ce qui va suivre. Élie avait vu Dieu se manifester à travers les oiseaux. Il avait vu Dieu faire un chemin avec la jarre presque vide. Aussi, lorsque le garçon est mort, Élie n'a pas cru que c'était la fin de l'histoire, même si cela semblait être la fin de l'histoire. Au lieu de cela, il a prié, il a cru, et Dieu s'est manifesté.
À la lecture de cette histoire, on peut se dire que ce miracle est un peu gâché.
Je veux dire, c'est dans la maison de cette pauvre veuve. Personne d'autre n'est là pour le voir. Pourquoi Élie ne l'a-t-il pas ressuscité devant une foule de 20 000 personnes, avec beaucoup de lumière et une bonne sonorisation? Ils auraient pu annoncer l'événement sur les médias sociaux et dire « Venez à l'événement principal le 27 avril au stade. Ne le manquez pas. »
Dieu va ressusciter un jeune garçon d'entre les morts.
Hashtag Yolt, on ne vit que deux fois.
C'est ce que nous pourrions faire si nous organisions l'événement.
Mais Dieu n'a pas besoin de battage médiatique. Après tout, Jésus est né dans une mangeoire à Bethléem.
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un miracle inutile. Je pense que c'est un rappel que Dieu se soucie intimement de chacune de nos situations. Il se soucie des soi-disant grandes choses, comme le roi Achab qui conduit Israël à adorer des idoles. Et il se soucie des soi-disant petites choses, comme cette pauvre veuve qui a perdu son fils. Comme nous le verrons, il agit sur le mont Carmel et dans la maison de cette pauvre veuve.
Cela signifie qu'il se soucie profondément de vous et de ce que vous vivez aujourd'hui. Il est le Dieu qui voit, le Dieu qui entend. Il sait que ton pot est peut-être presque vide. Il sait qu'il se soucie de vous et vous pouvez lui confier votre pot, quel qu'il soit.
Et l'épreuve que vous vivez aujourd'hui n'est pas une perte. Jacques dit, considérez comme une joie pure, mes frères et sœurs, les épreuves de toutes sortes que vous avez à subir. 3. Parce que vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. 4. Laissez la persévérance achever son œuvre, afin que vous soyez mûrs et complets, sans qu'il vous manque rien. Dans votre épreuve, dans votre test, Dieu vous développe. Il vous fait grandir. Il vous fait mûrir. Il vous prépare pour la suite. Les événements de 1 roi 17 ont préparé Élie aux événements de 1 roi 18.
Ce matin, si vous avez l'impression que votre jarre est presque vide, je sais que la prière habituelle en réponse est « Seigneur, remplis ma jarre. Seigneur, remplis mon compte en banque. Seigneur, remplis ma santé. Seigneur, remplis mes problèmes relationnels. Seigneur, remplis ma carrière. Seigneur, remplis-le, remplis-le. » Et c'est bien. Ce ne sont pas de mauvaises prières. Mais quand je lis « 1 roi 17 », je pense que la meilleure prière est « Seigneur, aide-moi à te faire confiance quand ma jarre est presque vide. Aide-moi à considérer comme une pure joie le fait de tenir cette jarre presque vide. Aide-moi à comprendre que tu travailles en moi en ce moment même. Que ce pot presque vide n'est pas un gaspillage, mais que tu l'utilises pour me faire grandir, pour me faire mûrir, pour me préparer à ce qui va suivre. Comme le dit le livre des Hébreux, Jésus est le plus grand Élie. Dieu a utilisé Élie pour ramener la veuve à la vie, et Jésus a accompli un miracle similaire dans Luc 7. Il a également ramené à la vie le fils d'une veuve. La différence est que Jésus n'a pas prié et demandé à Dieu de le faire comme l'a fait Élie. Au lieu de cela, Jésus a simplement dit « Lève-toi » et le garçon est revenu à la vie.
Dieu avait donné à Jésus toute autorité.
Jésus était Dieu dans la chair. Il est venu en disant « Je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et comme nous l'avons vu dimanche dernier, il est lui-même ressuscité des morts et a triomphé du péché et de la mort une fois pour toutes. En nous repentant de nos péchés et en lui faisant confiance en tant que Seigneur, nous pouvons avoir une relation avec lui. Nous pouvons lui apporter nos jarres presque vides dans la foi. Nous pouvons faire confiance à ses promesses. Nous pouvons le remercier pour notre pain quotidien, tout en sachant que nous ne vivons pas seulement de pain, mais nous vivons de la parole de Dieu, des promesses de Dieu. Et nous savons que ces promesses ne manquent jamais.